Chapitre 11. Les véhicules qui arrivaient de l'espace ou des modules voisins, en empruntant les tubes de liaison, s'arrêtaient dans une station de l'anneau qui encerclait l'énorme sphère.
Chaque secteur concentrique n'a que deux entrées situées à 180 degrés l'une de l'autre,
expliqua l'aigle lorsqu'ils eurent pris un trottoir roulant. Ils avaient sur leur droite l'enveloppe externe du module, sur leur gauche, une paroi sans ouverture.
Est-ce que je pourrai bientôt retirer mon scaphandre ?
Voulut-elle savoir.
Oui, comme il était impossible de pressuriser la totalité de la sphère en un si bref délai, j'ai établi un circuit. Partout où nous irons, vous n'aurez pas besoin de cette protection.
Vous avez donc déterminé ce que je verrai ?
Je n'avais pas le choix. Ce module est plus vaste qu'un des hémicylindres de Rama et bourré d'informations. J'ai tenté d'organiser notre visite en fonction de ce qui vous intéresse et du temps dont nous disposons. Mais si vous souhaitez modifier l'itinéraire...
Non, non, je m'en remets à vous.
Ils approchaient de l'extrémité du trottoir roulant. Un large couloir s'ouvrait sur leur gauche.
« Au fait, » dit l'aigle, « j'ai omis de préciser que vous n'aurez accès qu'aux deux secteurs externes. Le domaine des prédictions ne nous sera pas accessible.
Pourquoi ?»
demanda-t-elle en faisant avancer son fauteuil.
Je l'ignore, et c'est sans importance, si j'ai bien compris ce qui vous intéresse.
Ils avaient devant eux une haute paroi blanche. Ils en approchèrent, et une large porte s'ouvrit vers l'intérieur d'une vaste salle circulaire, occupée en son centre par une sphère de 10 mètres de diamètre. D'étranges appareils et symboles couvraient les murs et le plafond. L'aigle déclara qu'il ne connaissait pas leur signification.
« Vous aurez ici un aperçu de ce que sera notre parcours. »
Le globe brillant se divisa. Sa partie supérieure se souleva pour autoriser leur passage et redescendit sitôt qu'ils furent entrés. Ils ne restèrent dans le noir qu'une ou deux secondes. Des petites lumières disséminées illuminèrent la paroi en face d'eux.
Vous avez devant vous un plan de ce secteur vu de l'intérieur, comme si nous étions au centre du module de la connaissance et que les parties internes n'existaient pas. À présent, nous allons vous montrer où nous irons au cours des prochaines heures.
Une douce clarté éclaira environ 30% de la surface.
Tout ce qu'il y a dans cette zone se rapporte à la spatio-pérégrination. Le point rouge clignotant indique notre position actuelle.
Une ligne de la même couleur remonta à l'aplomb de leur tête vers une représentation de la Voie lactée.
Nous visiterons les salles de géographie, technologie et biologie. Puis nous ferons une courte pause et passerons à la section suivante. Avez-vous des questions à me poser ?
Ils gravirent une rampe à bord d'un petit véhicule identique à celui qu'ils avaient emprunté pour aller voir Michael et Simone dans le module d'habitation. Bien que le chemin fût illuminé devant et derrière eux, tout ce qu'il y avait sur les côtés restait plongé dans les ténèbres.
« Qu'avons-nous autour de nous ?»
demanda Nicole.
« Des banques de données et quelques expositions dont la visite n'est pas prévue au programme. »
Ils atteignirent une grande porte et s'arrêtèrent.
« Cette salle est la plus vaste de ce secteur, »
déclara l'aigle en dépliant le fauteuil roulant.
« Au point le plus large, elle mesure 500 mètres. Elle abrite une reconstitution de votre galaxie que nous découvrirons sur une plateforme mobile. Vous aurez l'impression d'être dans l'espace, et si vous avez le vertige, rappelez-vous que nous sommes en apesanteur.
C'était si spectaculaire que Nicole fut abasourdie avant même d'avoir atteint le centre des lieux. Elle voyait dans cette poche de ténèbres d'innombrables points lumineux représentant des étoiles solitaires, binaires, triples, des géantes rouges, des naines blanches, et ils survolèrent même une supernova. Il y avait de partout des choses différentes et fascinantes. Après quelques minutes, l'aigle immobilisa la plateforme.
« Nous nous retrouvons en terrain familier, »
dit-il. Il utilisa un pointeur laser pour désigner une étoile jaune stable.
« La reconnaissez-vous ? »
Nicole admirait toujours la multitude de points lumineux.
« Les centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée sont-elles toutes représentées ?»« Non, seulement une partie. » Je vous fournirai des explications complémentaires quand nous serons au sommet et pourrons voir le plan galactique central. Je vous ai conduite ici dans un autre but.
Nicole reconnut le soleil et les étoiles triples du Centaure. Elle avait oublié les noms de la plupart des astres voisins, mais en identifia un.
Tau Ceti. Oui. Tau Ceti paraît si proche du Soleil, alors qu'une impensable distance les sépare. La galaxie est bien plus vaste qu'on ne peut l'imaginer.
Elle secoua la tête et ils repartirent.
Je n'ai traversé qu'un 10 000ème de sa longueur au cours de mes voyages.
L'aigle projeta sur leur droite un faisceau lumineux tridimensionnel en forme de parallélépipède. En manipulant le boîtier noir qu'il avait à la main, il modifia son volume.
« Ceci nous permet de changer d'échelle, » dit-il, « et de grossir les parties qui nous intéressent. Je vais vous faire une démonstration. En dirigeant le rayon rouge sur le centre de la nébuleuse d'Orion, j'indique la position théorique de notre plateforme. » Puis j'agrandis le cadre afin d'englober un millier d'étoiles et...
L'obscurité revint pendant une seconde, puis des lumières disposées différemment éblouirent Nicole. Les amas et les étoiles isolées étaient plus nettes. L'aigle expliqua qu'il voyait désormais l'espace depuis la nébuleuse d'Orion et que leur vision ne portait plus qu'à quelques années-lumière et non à 60 000 comme avant.
Ici, les étoiles et les planètes viennent de naître.
Il fit grimper la plateforme sur la droite.
Vous voyez là-bas un système stellaire en début de formation. Il a des caractéristiques que possédait le système solaire il y a 4,5 milliards d'années.
Il enchâssa une des étoiles dans un petit cube, et quelques secondes plus tard, sa lumière inonda la salle. Nicole vit une tempête se déplacer sur sa surface en ébullition. Un arc de feu s'éleva dans la noirceur de l'espace. Une douzaine de corps solides étaient visibles autour de la jeune étoile. L'aigle les conduisit vers une planète en fusion rougeâtre. Un astéroïde tomba dans la masse liquide et créa des vagues qui s'éloignèrent dans toutes les directions.
Les prévisions statistiques indiquent que la vie a de fortes chances d'apparaître sur ce monde quelques milliards d'années après la fin de cette période de bombardement et de formation. Elle aura une étoile chaude, stable, une atmosphère aux variations climatiques suffisantes et tous les éléments chimiques requis. « Regardez, je demande une analyse de la moitié inférieure de la table périodique et l'affichage de la composition de cette masse en ébullition. »
Un tableau apparut dans les ténèbres au-dessus de la planète. Tous ces atomes étaient représentés par une couleur spécifique et avec leur nombre de neutrons et de protons. La grosseur de l'affichage indiquait leur fréquence.
Vous remarquerez l'importance du carbone, de l'azote, des halogènes et du fer,
dit l'aigle.
Autant d'éléments indispensables à la vie. Ils ont été créés dans un récent passé par une supernova proche, et ils ont considérablement accru le potentiel de ce corps en formation. Sans fer dans l'atome central de l'hémoglobine, par exemple, le système de distribution de l'oxygène de nombreuses espèces évoluées manquerait d'efficacité.
Et le cycle continue pour l'éternité. Des étoiles et des planètes se forment à partir de la poussière cosmique. On trouve sur quelques mondes les conditions favorables à l'apparition de l'intelligence. Mais qui dirige tout cela? Quelle main invisible apporte aux éléments une structure de plus en plus complexe jusqu'à leur faire atteindre le stade de la conscience? La matière s'organise-t-elle en fonction d'une loi naturelle?
L'aigle lui expliqua que la vie était rarement présente dans les systèmes contenant uniquement des atomes simples, tels que l'hydrogène et l'hélium, privés des atomes plus élaborés forgés par les supernovas des étoiles mourantes. Nicole se sentait insignifiante. Elle souhaitait voir quelque chose à son échelle.
« Quelle est la capacité de grossissement maximale ? »
demanda-t-elle.
« L'échelle de 1 ? 4096e. À l'opposé, nous pouvons avoir une image de l'espace intergalactique couvrant 50 millions d'années-lumière.
Nicole fit un exercice de calcul mental.
Étant donné que la salle mesure 500 mètres, il serait possible de voir environ 2000 kilomètres de la surface d'une planète. C'est exact. Pourquoi cette question? Pourriez-vous me montrer la Terre, me faire survoler la France? Naturellement, mais ce n'est pas prévu au programme. Ça me ferait tellement plaisir. Entendu. Accordez-moi un instant.
Le survol débuta au-dessus de la Manche. La plateforme s'était stabilisée au sommet de la salle depuis 3 secondes quand une explosion de lumière se produisit sous eux. Lorsque ses yeux se furent accoutumés à la brusque luminosité, Nicole reconnut les contours de la côte normande avec dans le lointain l'estuaire de la Seine. Elle demanda à l'aigle d'aller se placer au-dessus du fleuve puis de remonter lentement son cours vers Paris. La vision de cette contrée familière lui rappela sa jeunesse quand elle visitait la région avec son père. L'image était magnifique, tridimensionnelle, quand les accidents du terrain et les bâtiments étaient importants. À Rouen, l'église où Jeanne d'Arc s'était temporairement rétractée avait 5 mm de haut sur 2 cm de long. En approchant de Paris, elle vit l'Arc de Triomphe dépasser du modèle. Au-dessus du 16e arrondissement, un immeuble moderne attira son regard et lui rappela un souvenir de son adolescence.
« Ce que j'ai à dire à ma fille et à tous les jeunes est très simple »,
avait déclaré son père pour clore son discours le jour où il avait reçu le prix Marie Renault.
« Au cours de ma vie, j'ai découvert 2 choses dont la valeur est inestimable. La connaissance et l'amour. Rien d'autre. Ni la célébrité, ni la puissance, ni la réussite en soi ne leur est comparable.
Merci, papa,
pensa-t-elle.
Merci encore de t'être occupé ainsi de moi après la mort de maman. Merci pour tout ce que tu m'as enseigné.
Elle pleurait. Elle était redevenue une enfant et elle désirait désespérément parler à son père de sa mort imminente. Elle lutta contre les émotions qui menaçaient de la terrasser.
« Non, Je voulais laisser tout cela derrière moi. »
Elle cessa de s'intéresser à ce qu'elle voyait. L'aigle le remarqua et lui demanda
« Qu'avez-vous ?»
Elle réussit à lui sourire.
« J'aimerais un peu de dépaysement. Pourriez-vous me montrer une cité des octopodes ?»« Vous y tenez vraiment ?»
Elle hocha la tête et la salle s'assombrit. Deux secondes plus tard, il survolait un immense océan d'un vert soutenu.
« Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Nous nous trouvons à environ 30 années-lumière de votre soleil, sur la première planète colonisée par les octopodes après la disparition des précurseurs. Leur ville la plus célèbre est à 200 kilomètres d'ici. »
Nicole éprouvait de la joie alors que leur plateforme filait au-dessus des flots. Elle pouvait déjà discerner dans le lointain les vagues contours de quelques bâtiments. Elle avait l'impression d'être une exploratrice, impatiente de découvrir les merveilles de cités fabuleuses décrites par d'autres voyageurs.
« Pourquoi l'eau est-elle si verte ?»« Le maître supérieur de cet océan contient un écosystème très riche, saturé de plantes photosynthétiques qui servent d'abri et de nourriture à 10 millions de créatures différentes. Ce sont les précurseurs qui ont créé ce lieu. Les octopodes l'ont découvert et adapté à leurs besoins. »
Quand Nicole leva les yeux, la plateforme atteignait la cité. Ils avaient sous eux des centaines d'immeubles de formes et de dimensions diverses. La plupart étaient construits sur la terre ferme, mais certains semblaient flotter sur l'eau. Ils étaient plus denses, sur une étroite péninsule, à l'extrémité de laquelle elle voyait trois énormes dômes verts rapprochés, plus hauts que tout le reste. L'agglomération était délimitée par un cercle de 8 dômes de taille plus modeste, reliés au précédent par des tubes de transport. Tous avaient une couleur différente, et les bâtiments qui les entouraient une teinte identique. Dans l'océan, par exemple, des constructions formaient 8 rayons rouges qui partaient d'un dôme de même couleur et dessinaient un motif géométrique parfaitement équilibré. Tous les immeubles étaient circonscrits par le cercle des 8 dômes périphériques. Une étrange structure brune, qui flottait sur les flots, fascina Nicole. Elle semblait démesurée et évoquait, vu du ciel, un millefeuille aux interstices comblés par un matériau rappelant les brindilles dont les oiseaux se servaient pour construire leur nid.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda-t-elle en le désignant du doigt.
« Les octopodes de ce monde sont très avancés en microbiologie. Cette construction qui s'enfonce sous l'eau sur une dizaine de mètres abrite plus d'un millier d'habitats différents pour des espèces microscopiques. Il s'agit en fait d'un centre de ravitaillement contenant l'excédent de population de chacune de ces créatures. Les octopodes qui en ont besoin viennent s'y approvisionner. »
Nicole dévorait la scène des yeux. Elle s'imaginait dans ces rues, au milieu d'un assortiment d'êtres encore plus variés que ceux du bestiaire de la cité d'Émeraude.
« Je veux aller là-bas. Je veux voir. »
Elle demanda à l'aigle de la conduire au-dessus d'un des grands dômes verts.
« L'intérieur est-il identique à ce que j'ai vu dans la cité d'Émeraude ?»« Non. Les dimensions sont totalement différentes. Dans Rama, les octopodes ont reproduit un de leurs habitats à une échelle réduite. Faute de place, ils ont dû regrouper au même endroit des centres d'activité habituellement séparés par des centaines de kilomètres. Dans des conditions normales, les alternatifs ne vivent pas aux portes des cités, mais sur d'autres planètes. »
Nicole sourit.
« Un monde peuplé d'alternatifs. Voilà un lieu que j'aimerais visiter.
Cette ville abrite plus de 18 millions d'octopodes en comptant les morphes, disait l'aigle. C'est la capitale administrative de cette planète. On y trouve près de 10 milliards de créatures appartenant à 50 000 espèces. Son étendue équivaut à celle de Los Angeles ou des autres grandes zones urbaines de la Terre.
L'aigle continuait de réciter des faits et des statistiques, mais Nicole ne l'écoutait plus.
Archie vivait-il ici, ou le docteur Bleu, ou un autre des octopodes que j'ai connus?
Non, il ne venait pas de ce système stellaire. Les octopodes de Rama sont originaires de ce qu'ils appellent une colonie frontalière, des communautés génétiquement adaptées pour avoir des contacts avec des formes de vie différentes.
Nicole sourit et secoua la tête.
Bien sûr, j'aurais dû me douter qu'ils avaient quelque chose de spécial.
Elle se sentait lasse. Peu après, elle remercia l'aigle et déclara qu'elle avait suffisamment vu la cité des octopodes. En un instant, les dômes, la structure feuilletée brune et la mer disparurent. L'aigle fit remonter la plateforme. Sous eux, la Voie lactée occupait un espace réduit au centre de la salle.
L'univers est une succession en expansion infinie de matière et de vide. Voyez le désert qui vous entoure. Si on excepte les nuages de Magellan, qu'on ne peut considérer comme des galaxies à part entière, votre plus proche voisin est Andromède, à une distance très importante. La Voie lactée ne mesure dans sa plus grande largeur qu'un vingtième de la distance qui les sépare.
Mais les dimensions de l'univers la laissaient indifférente. Elle pensait à la vie sur différents mondes, à la diversité des créatures créées à partir d'atomes qui avaient évolué vers l'intelligence, avec ou sans l'aide d'êtres supérieurs. Elle savourait cet instant, consciente qu'il s'agissait d'une des dernières envolées de son imagination qui avait tant enrichi son existence.